La libre antenne d'Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Francis au 39-21. Bonsoir Francis.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Francis et quel âge avez-vous ?
Alors, je vous appelle d'Alsace, au pied du massif vosgien, et j'ai 59 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Francis ?
Alors, ce qui m'amène, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup et qui, en plus, se situe dans l'actualité. Le 1er juillet, donc dans moins de deux mois, le congé de paternité va passer de 11 à 25 jours. Alors, en théorie, on se dit que c'est une superbe avancée qui a été décidée il n'y a pas longtemps. Sauf que cette superbe avancée, encore faudrait-il savoir ce qu'on fait de ce temps supplémentaire qu'on donne au nouveau papa. Ils ont 14 jours de plus, mais si ce temps-là n'est pas investi par de la connaissance, par un accompagnement, je redoute fortement que les papas, avec ce temps supplémentaire, ils fassent du bricolage, ils fassent du sport, ils retrouvent leurs copains, etc. Donc le gouvernement s'est décidé il y a un peu plus d'un an à prendre le sujet à bras-le-corps en disant il faut mieux s'occuper des familles, il faut mieux s'occuper des papas, des mamans et des enfants pour le bien ultérieur des enfants, pour une société faite d'enfants qui sont mieux pris en charge dès la naissance. Malheureusement, il y a une commission qui a fait des dizaines de propositions, et comme bien souvent ça se passe dans le monde politique, on sort une idée du chapeau et on se dit avec cette idée-là, on va tout révolutionner, on va régler le problème avec une mesure. Donc voilà, on passe de 11 à 25 jours, mais sans aucune mesure d'accompagnement. Et si je suis tellement sensible à cette question-là, c'est parce que je suis papa de trois enfants. La paternité, c'est pour moi l'expérience la plus extraordinaire de mon existence, mais c'est aussi l'expérience dans laquelle je n'ai cessé d'avoir le sentiment d'avancer dans le brouillard et d'avancer par essai-erreur. Puisque il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette histoire de la paternité. En fait, le destin de sa vie, c'est quoi ? C'est naître, se reproduire et mourir. Et pour cette reproduction, c'est le seul domaine de l'existence où on n'apprend rien. Pour conduire une voiture, vous passez un permis. Pour n'importe quel métier, vous avez un apprentissage. Même pour faire du bricolage, il y a des cours de bricolage maintenant par les magasins. Mais pour la paternité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a même pas, au moment du cursus scolaire, on ne songe même pas à proposer aux collégiens ou aux lycéens des textes issus de la littérature, alors qu'il y en a à foison, sur le rôle du père, sur le rôle de la mère, sur la place de la famille, etc. Voilà, donc, on est projeté, les jeunes personnes sont projetées à un moment donné dans cette envie de fonder une famille, dans cette envie de procréer, mais c'est un départ à l'aventure et sans bagage.
D'accord. Comment ça se passe ? Vous avez de trois grands-enfants, me semble-t-il ?
J'ai trois enfants. Alors, j'ai une fille qui a 35 ans, j'ai un garçon qui a 31 ans et j'ai un dernier qui a 18 ans. Alors, à la naissance de mon premier enfant, donc là, effectivement, c'était vraiment l'aventure la plus complète. Je n'étais pas préparé, je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'étais journaliste d'investigation et donc j'étais un acharné du travail. J'adorais mon travail. Donc on a créé cet enfant. Cet enfant est venu et puis cet enfant, j'étais submergé par trois choses. D'une part par l'émotion. Voilà, d'un coup il y a un être vivant là, un nouvel être vivant au sein de la famille. Donc ça j'étais fou de joie, fou de bonheur, bouleversé par ça. Ensuite, j'étais bouleversé par la charge de travail que ça représentait. C'était une fille extrêmement sollicitante, extrêmement animée, mais il fallait s'en occuper tout le temps. Et puis, troisième élément, j'étais totalement démuni parce que cet enfant avait des problèmes de digestion. Et donc, après chaque biberon, il fallait se promener avec elle pendant une ou deux heures, sinon elle régurgitait. Enfin, c'était très compliqué. Et donc, j'ai fait avec tout ça, avec mon épouse de l'époque, on a essayé de faire au mieux, mais on était complètement paniqués. Et pour connaître aujourd'hui encore dans mon entourage amical des jeunes couples, je constate qu'aujourd'hui encore, il y a énormément de désœuvrement de la part des jeunes parents lorsqu'un enfant paraît. Donc voilà, ça c'était la première naissance. Pour la deuxième naissance pour mon garçon, là j'étais dans l'angoisse que les difficultés de la première naissance reviennent. Et j'étais toujours dans mon obsession du travail. Et en plus, l'obligation de se dire on ne peut pas laisser un enfant seul, il vaut mieux en avoir un deuxième. Et donc, je me suis moi-même mis la pression. Et quand je dis qu'on avance dans le brouillard, je crois que chaque fois qu'on a un nouvel enfant, on n'est pas dans la situation de se dire ce que j'ai appris par la première grossesse va m'apprendre à faire les choses mieux la fois suivante. Mmh. En fait, les choses sont chaque fois totalement différentes et on se retrouve avec d'autres interrogations, avec d'autres doutes, etc. Et puis, il faut aussi se rendre compte que, et ça c'est quelque chose qui n'a toujours pas changé aujourd'hui, c'est que la grossesse reste une affaire de femme. Et dans cette affaire de femme, l'homme est au second plan. Alors, ce n'est pas une question de rivalité, c'est une question de mauvaise prise en compte des bouleversements psychologiques que peut connaître l'homme. On sait, il y a eu énormément d'études là-dessus, que pour les femmes, c'est un bouleversement psychologique profond sur son rôle, sur sa place, sur une réactivation de son histoire personnelle. Donc ça, on s'en occupe un peu, mais pour les hommes, il n'y a rien. Aujourd'hui encore, à l'heure où je vous parle, il y a seulement 10% des maternités françaises qui proposent des groupes de parole pour les pères. Donc ce désert-là, ce désert dans l'accompagnement, pour moi, c'est quelque chose de dramatique, parce que trop souvent, les pères ne se rendent compte qu'ils deviennent pères qu'au moment où ils voient l'enfant, lorsque l'enfant est né. Pendant les 9 mois, c'est quelque chose d'abstrait qui est dans le ventre de leur compagne. Tout au plus, ils s'occupent de préparer la chambre pour le futur enfant, ils s'occupent de l'intendance, etc. Et la société dans son ensemble n'est pas correcte par rapport à ça. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui encore, quand un père veut accompagner son épouse ou sa conjointe dans les différents rendez-vous médicaux, il est obligé de resquiller sur son lieu de travail. Il est obligé soit de s'arranger avec ses collègues, soit de s'arranger avec le patron en disant « Est-ce que je peux m'absenter 2 heures pour accompagner ma femme pour les rendez-vous avec le gynécologue ?» Il n'existe pas dans le code du travail de possibilité qui instaure un droit pour le père d'accompagner son épouse dans les rendez-vous médicaux. Et ça, c'est un tout petit exemple, mais qui montre à quel point la question du père et la question du couple par rapport à la venue d'un enfant n'est pas prise en compte convenablement dans la société. Et puis, quand j'ai eu mon troisième enfant, qui a donc 18 ans aujourd'hui, alors ça c'était, entre-temps, il était passé par là, un divorce, une psychanalyse pour ma part, et donc une nouvelle union. Là, j'avais 41 ans, et là je me suis dit, bon, cette fois, je vais vraiment faire le maximum pour être présent, pour essayer de faire mieux. À ce moment-là, professionnellement, je suis réalisateur pour la télévision. Donc, je mets mes activités professionnelles entre parenthèses pendant quasiment 6 mois pour être avec ma compagne, pour être présent pendant la grossesse, pour l'accompagner à tous les rendez-vous, pour prendre le temps qu'il faut pour être là, pour faire aussi quelque chose qui est aujourd'hui un peu plus connu.
Parlez bien dans votre combiné, parce qu'il y a des moments où vous parlez à côté, ça, on n'entend pas bien.
D'accord, excusez-moi. Donc, je suis présent pendant les 6 des 9 mois de la grossesse. Je fais aussi quelque chose qui est aujourd'hui un peu plus connu, qui s'appelle de l'autonomie, c'est-à-dire de l'accompagnement par des bercements. Alors, ce sont souvent des sages-femmes qui proposent et qui enseignent cela. Donc, c'est des techniques de bercement de la mère par le père pour qu'à la fois, il y ait une osmose qui se crée entre le père et la mère et que le père ressente l'enfant très tôt dans le ventre de sa maman. Mmh. Donc j'ai fait tout ça. J'ai aussi initié des séances d'ostéopathie pour ma compagne. Je me suis vraiment terriblement investi dans la grossesse. Et là, je me suis retrouvé avec un effet boomerang assez incroyable. C'est que je me suis repris alors de façon assez violente, des angoisses personnelles. Des angoisses personnelles sont les conditions de ma propre venue sur Terre qui sont remontées à la surface, dans le sens où je n'étais pas un enfant désiré, dans le sens où mon père avait demandé à ma mère d'avorter lorsqu'il a su qu'elle était enceinte, ce qu'elle a refusé de faire. Donc je n'étais pas un enfant aimé dès le départ. Et donc la question de ma place a ressurgi. J'ai fait ce qu'on appelle une couvade, c'est-à-dire que j'ai grossi. Et la couvade, c'est un dérèglement psychologique, c'est la volonté de grossir aussi comme la conjointe grossit. Quelque part, aussi, même jusqu'au point psychanalytique, ce fait de grossir, c'est la volonté d'être soi-même, enfin, en 100 ans, appelons-le comme on veut.
Oui.
Et donc, j'étais d'autant plus, alors que je voulais faire tout le mieux possible, j'étais d'autant plus angoissé par toutes ces questions-là. Est-ce que je vais être un bon père? Est-ce que, enfin, je vais faire les choses convenablement? Est-ce que je vais trouver ma place dans cette triade, hein, puisqu'on passait à trois? Donc voilà, donc c'est... Et à ce moment-là, il n'y avait toujours pas, donc cet enfant est né en 2002, il n'y avait toujours pas, et il n'y a toujours pas aujourd'hui, d'accompagnement institutionnalisé, même pas de proposition d'accompagnement psychologique. Aujourd'hui, ça existe pour les femmes. Elles peuvent avoir un rendez-vous avec un psy, si elles le demandent, si les femmes ont une difficulté pendant la grossesse. Mais c'est un rendez-vous. Il n'y a pas de cas. On pourrait imaginer qu'il y a un carnet avec une série de rendez-vous psychologiques pour la femme pendant la grossesse, pour faire face à ces bouleversements. Et bien évidemment, il n'existe strictement rien pour l'homme. Donc je me suis senti complètement démunie. La grossesse c'est très très bien terminée parce que cette implication, les bouleversements que j'ai connus, on a traversé tout ça. Et le jour de l'accouchement, j'apporte une précision, c'est qu'en théorie, les sages-femmes et les services de maternité sont censés proposer aux couples qui viennent de concevoir un projet de naissance. C'est-à-dire d'imaginer ou d'exprimer la manière dont ils souhaitent que la grossesse d'abord et ensuite l'accouchement se déroule. Dans les faits, il y a suffisamment d'études qui ont été réalisées et qui montrent que ce projet de naissance est très rarement proposé et plus rarement encore des parents viennent avec un projet de naissance. Donc, nous, on en avait un et le projet de naissance, c'était qu'on soit à deux sur la table d'accouchement. Et on a eu la chance de tomber sur une sage-femme. Quand on est arrivé pour l'accouchement, j'ai dit voilà l'idée. On aimerait être tous les deux sur la table d'accouchement. Et la sage-femme m'a dit ok, on le fait, je vais vous aider. Je suis déshabillé, j'étais en culotte. Je suis monté sur la table d'accouchement, j'avais les pieds dans les étriers. Et ma compagne était couchée sur moi. Et c'est à quatre mains qu'on a sorti l'enfant.
Ça n'a pas surpris, c'était une demande que la sage-femme avait déjà eue, ça ou
Non. C'est une demande qu'elle n'avait pas eue. Elle a été d'emblée extrêmement attentive, extrêmement prévenante. Et elle, au-delà de l'idée théorique que j'en avais, une fois que je me suis retrouvé en culotte sur la table d'accouchement avec ma compagne couchée sur moi, je n'étais pas fier. Elle me disait, bon, et maintenant tu fais quoi? Et elle nous a aidés. Elle nous a aidés à sortir l'enfant. Elle nous a laissé ensuite tous les trois sur la table d'accouchement, le bébé nu sur nous avec une lumière chauffante au-dessus de nous, et nous a laissé seuls pendant une demi-heure. C'était un moment absolument extraordinaire, et ça, je peux vous assurer que ça a créé un lien. Quand j'en parle, j'en suis encore ému. Ça a créé un lien absolument fabuleux avec ce dernier enfant.
Oui.
On a créé à ce moment-là, ça aussi c'est quelque chose qu'on encourage. On encourage aujourd'hui ce qu'on appelle le pot à pot, ce que nous avons pratiqué à ce moment-là. Mais dans les faits, donc le pot à pot, le principe c'est que l'homme et la femme prennent l'enfant nu sur la poitrine pour créer ce lien physique charnel. Mais là encore, dans les faits, c'est pas toujours que cette proposition est faite. Et c'est pas toujours que les familles, que les couples l'acceptent, parce que même l'homme, parfois, par rapport à cet enfant qui sort du ventre, qui est couvert de vernix, cette matière un peu verdâtre, bah, il y a une espèce de dégoût même, hein, de la part de certains pères, ou une appréhension. Donc parce qu'on est dans des mécanismes hospitaliers qui sont pris par le temps, par l'urgence, etc., bah, on ne prend pas suffisamment de temps. Donc nous, on a pu faire ça, et j'ai réussi parce que ma compagne a bien voulu qu'on fasse ça, et parce que la sage-femme a pris le temps de nous accompagner, on a pu créer quelque chose de signifiant et de constructif pour nous, évidemment, mais aussi pour la relation avec l'enfant. Et ce qu'on a fait ensuite le lendemain de la naissance de l'enfant, parce que j'ai un ami ostéopathe, alors à l'époque, c'est quelque chose qui était complètement hors norme aussi, j'ai demandé à cet ostéopathe de venir à la maternité, et il a fait des manipulations évidemment extrêmement douces, enfin, c'était un moment absolument extraordinaire, sur l'enfant. Donc dans les heures qui ont suivi l'accouchement, il a fait refaire à l'enfant le chemin de la traversée de l'utérus.
C'est-à-dire?
La sortie du ventre. Ben, il l'a manipulé légèrement pour le défaire des contraintes corporelles physiques qu'il avait subies au moment du passage. Parce que dans tous les cas, alors ça c'est médicalement, ça a été démontré, dans tous les cas, je veux dire, c'est quelque chose, c'est un corps humain qui passe par un endroit étroit, pardon d'être trivial, et donc forcément le corps se tortille, le corps se raidit, le corps se crispe. Et donc le rôle de l'ostéopathie, c'est de détendre tout ça, hein, et de d'assouplir le corps qui a subi une épreuve par ce moment de passage. Et après cette séance d'ostéopathie, eh bien, l'enfant, il a passé une nuit royale. Hein. Il a dormi 12 heures, voilà. Donc, là encore, dans les propositions de la commission qui s'était penchée sur les 1000 premiers jours de l'enfant, une des propositions concernait la popularisation de l'ostéopathie. Ça aussi, c'est une mesure qui a été complètement oubliée. Voilà, donc, l'appel que je me permets modestement de lancer, c'est au papa, c'est oui, vous allez avoir 14 jours de plus, et au total 25 jours pour être aux côtés de votre compagne, mais de grâce, occupez-vous de votre compagne, de grâce, occupez-vous de votre enfant, faites en sorte que ce temps soit investi, que vous construisiez un avenir serein et un lien profond avec vos enfants, parce que ce qu'on sait aussi, c'est que si la grossesse ne se développe pas et les premiers mois de l'enfant ne se développent pas de façon harmonieuse entre le couple et l'enfant, on sait qu'il y a un enfant sur trois qui, avant l'âge de 4 ans, vit avec seulement un des parents. Parce que ce qui ne fonctionne pas pendant la grossesse et pendant l'accouchement porte les germes des futures dissensions et des futures séparations entre le couple. Donc, moi, je considère que cette question de la grossesse est une question d'enjeu sociétal. Et d'enjeu de sociétal et de paix sociale. Parce que des enfants qui grandissent dans un environnement harmonieux, avec des parents sereins, ce sont des enfants qui sont ensuite mieux dans la société.
D'accord. Et tout ce que vous avez fait, vous l'avez puisé naturellement, ou vous vous êtes inspiré de techniques déjà existantes, en fait ?
Non, alors, bon, évidemment, pour ce qui est de l'autonomie, c'est quelque chose qui existe, c'est-à-dire les techniques de bercement de la mère, ça existe, l'ostéopathie existe. Mais c'est vrai qu'ensuite, ma démarche a été assez empirique, c'est que je me suis servi de ce que je connaissais, de ce que je lisais, de ce qui me préoccupait, de par mes réflexions psychologiques et de par mes lectures et par mes connaissances humaines. L'ostéopathe, c'est un ami, il m'avait parlé de ça, il m'avait dit « je peux faire quelque chose pour ton enfant ». Donc à partir de là, j'ai élaboré ce processus-là, oui. Et bon, accessoirement, j'en ai fait un livre qui s'appelle « Ces 1000 jours pour commencer à être père »,
parce que je crois qu'il y a vraiment une nécessité impérieuse à témoigner, à faire part de son expérience, et je reste extrêmement modeste par rapport à ça. Hein. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas un médecin, je témoigne des difficultés que j'ai eues, des expériences que j'ai faites, et de ce tâtonnement dont je parlais en introduction, qui m'a permis de progresser sur la route et d'essayer de trouver une route harmonieuse, encore une fois.
D'accord. Et résultat, en fait, au bout du compte, vous sentez que ce que vous avez entrepris au moment de la grossesse est quelque chose qui a vraiment porté ses fruits ensuite. Vous avez pu le constater, ça
Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, j'entends bien. Alors, je suis extrêmement modeste par rapport à ça, parce que je pense que le métier de parent, c'est l'activité humaine la plus difficile qui soit, et que c'est un recommencement quotidien, et que rien n'est jamais gagné. Cependant, j'ai la prétention de croire que j'ai réussi à construire une relation harmonieuse avec mes enfants. On est dans une complicité, et dans un mouvement de parole permanent. C'est-à-dire, alors, il y a des moments où je me dis, et je m'interroge sur est-ce que le lien que j'ai avec eux, est-ce que c'est un lien classique d'un père avec ses enfants. Il y a des moments où ce sont mes enfants, il y a des moments où moi je suis leur enfant. Il y a des moments où c'est des copains, c'est des amis. Voilà, on est en tout cas, ce que je peux dire et ce que je crois avoir, encore une fois, très modestement réussi, c'est aussi parce que je suis un homme de communication, c'est d'avoir réussi à établir un lien de communication très, très puissant. Je veux dire, ma fille qui a 35 ans, je veux dire, on se parle tous les deux jours. Et quand on a les uns et les autres, quand on traverse une difficulté, mais aussi bien quand on a un moment de joie, on a besoin de le partager. On a besoin de l'éclairage des uns et des autres. Voilà, c'est comme ça que je peux dire ça.
D'accord.
Très bien. Il n'y a pas un qui est le sachant et l'autre l'apprenant. On est tous à tour de rôle des sachants et des apprenants.
Très bien. Vous avez écrit ce livre, en fait. On le trouve où, ce livre ?
Oh ben, vous le trouvez partout. Il a paru aux éditions Atim Neno. Il a paru en décembre 2009. Voilà. Et le livre, il se présente. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose de ludique et d'attractif. Il se présente comme un agenda. Je raconte jour après jour ce qui se passe dans la tête d'un homme. Entre le premier jour, le livre commence de façon très concrète sur la relation d'amour au moment de la conception de l'enfant. Mmh. Ça, c'est le premier jour et ça se termine au millième jour quand l'enfant a 2 ans et demi.
D'accord.
Et je raconte mes expériences, mes réflexions, mes émotions, mes galères, mes coups de cœur, les instants de rire. Parce que avec tout ça, je veux dire, à partir du moment qu'on établit une relation de dialogue, de partage, de compréhension, d'écoute, il y a du rire. Il y a très souvent du rire. Et on s'amuse à avancer ensemble. Mais au départ, il faut qu'il y ait effectivement, il faut, j'aime pas ce mot, essayons d'avoir une relation de partage. Voilà. Je veux dire, c'est pas à un moment donné, on fait l'amour et 9 mois après, il y a un enfant et après, on se démerde avec.
Non. Oui, oui.
Dans un monde idéal, commençons par parler en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et comment on fait? Et comment on va le vivre? Parce que, à cause d'un vécu historique qui est toujours là, parce que la grossesse était une affaire de femme, et elle est encore très majoritairement, l'homme, lorsqu'il traverse des difficultés, ou des interrogations, même pas forcément des difficultés, mais simplement des interrogations, ben il n'ose pas en parler. Donc, je veux dire, messieurs qui nous écoutez, mettez-vous à nu, racontez ce qui vous traverse, racontez les doutes que vous avez, racontez les peurs que vous avez. Vous savez, il y a aussi énormément de pères qui se barrent pendant la grossesse. Qui se barrent, alors, la situation extrême, c'est la séparation, mais qui se barrent aussi en allant plus souvent qu'avant voir les potes, qui très souvent aussi, alors il y a des statistiques dans ce domaine-là aussi, qui ont une maîtresse pendant la grossesse, et c'est souvent l'expression d'une réaction de panique par rapport à ce qui leur tombe sur les épaules. Là, maintenant, c'est plus toi qui es sur le devant de la scène, il y a un enfant qui vient, il y a ta femme qui a besoin de présence, etc. Et donc, l'homme très souvent, il n'est pas préparé à ça. Enfin, oui, il n'est pas préparé, il ne sait pas quoi en faire.
Très bien, merci beaucoup Francis, en tout cas, pour ce témoignage très intéressant d'expérience à transmettre. Si vous, messieurs, qui nous écoutez et qui avez envie de tenter cette expérience, vous pouvez réécouter le podcast de Francis ou lire les 1000 jours pour être papa et enceinte, journal d'un futur père.
C'est 1000 jours pour commencer à être père.
Pour commencer à être père, d'accord. Et voilà, qu'on peut trouver donc un peu partout. Merci beaucoup Francis, passez une bonne soirée et merci pour votre expérience. Au revoir.